Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Coucou François-Xavier, c'est Tristan Lopin, naturellement. Je t'appelle parce qu'en fait, comme tu le sais, le spectacle cartonne. On est vraiment plein partout pour tout 2022. Et je m'étais dit que 2023, après les deux Olympias, ce serait sympa qu'on puisse venir jouer chez toi, au Théâtre de l'Œuvre. Voilà, je sais pas si t'as des dispos. En vrai, 2023, on va pas faire genre, t'as pas programmé jusque si loin. Donc, rappelle-moi, j'aimerais bien venir voir le théâtre, tout ça, et qu'on passe un petit moment ensemble, donc... Voilà, je compte sur toi, je t'embrasse.
Salut Tristan, j'ai bien lu ton message. Écoute, avec plaisir, je t'attends au Théâtre de l'Œuvre en début d'après-midi, c'est là que j'y suis généralement. Avec plaisir pour te faire visiter le lieu. Et voilà, on discute. Je t'embrasse.
Drôle de rencontre avec François-Xavier de Maison.
Bonsoir ! Bonsoir la Suisse ! J'adore être en Suisse. J'adore jouer en Suisse. Vous êtes tellement sympa. Vous êtes tellement sain. Prenez Heidi, par exemple. Petite fille de la colline. Un vieil homme qui vit tout seul avec une petite fille dans la montagne. En Suisse, c'est un best-seller. En France, c'est un fait divers.
Route de rencontre avec Tristan Lopin.
Non, mais ça fait 8 mois, Anna. Donc maintenant, tu quittes sa page Facebook, t'enfiles un manteau, tu sors de chez toi.
Allez, bisous,
salut.
Elle me fatigue. Elle n'arrête pas. Mais ça, vous savez, Anne, elle est comme ça, elle s'attache trop vite. Et ça, c'est parce qu'elle est cancer.
Ou aussi parce qu'elle est moche.
Mais moche, moche, elle pique les yeux, c'est terrible.
Drôle de rencontre avec Tristan Lopin et François-Xavier de Maison sur France Inter.
Il n'est pas là. Ah si, il est là. Ah c'est bon, comment ça se passe?
Voilà, comment
bonjour,
ça va? Bonjour,
ça
Tristan,
va bien,
ça va bien? Ça fait plaisir,
ça va,
entre,
bah oui.
Entre.
Qu'est-ce que c'est?
Entre.
Bon,
tu as vu comme c'est beau?
C'est très beau.
Hein?
C'est chez toi, toi?
Écoute, j'ai la joie de diriger ce théâtre depuis 6 ans.
6
oui.
ans?
Oui.
Ah ouais, putain, je savais pas.
Ouais, avec Benoît Lavigne et Kim Poignant, on a repris la direction de ce théâtre. Et, c'est vrai qu'on a, on lui garde son âme de théâtre, de pièces de théâtre.
Ouais.
Mais on accueille aussi un peu d'humour avec.
Avec toi?
Déjà. Avec moi déjà, en ce moment. Et puis on a eu Alex Vizorek, Manu Payet, on a même eu Jerry Seinfeld.
Ah ouais, putain, trop bien.
Ouais. On a eu Louis C.K., on a eu.
Ah, vous avez Louis C.K.
Oui, on
ah.
a eu.
Vous avez eu Roman Frécinet.
Roman Frécinet, Marina Rollman, Guillermo Guise, toute cette génération que moi j'adore.
Ouais.
Que je trouve vraiment très talentueux. Et puis beaucoup de théâtre aussi, parce que ça reste un lieu de théâtre,
ouais,
théâtre de
l'œuvre.
Il faut trouver l'équilibre, si tu veux, entre le théâtre, la musique, un peu avec Jean-Louis Aubert, Ibrahim Malouf. Et...
Oh là là, quelle programmation.
Voilà. Et c'est un théâtre, effectivement, où il y a eu des grands noms de. Voilà, comme Robert Hirsch, Louis Jouvet, qui venait répéter ses pièces ici. On y a créé Ubu Roy, la pièce d'Alfred Jarry, et voilà. Donc c'est un lieu qui a de l'histoire.
Trop bien. Bon, bah.
Moi, je demande la salle.
Bah ouais, grave.
Allez, viens, Tristan.
Moi, je veux faire partie de l'histoire aussi.
Mais oui!
Ah ouais! Ah, ça fait vraiment théâtre à l'ancienne, quoi.
C'est la première fois que tu viens?
C'est la première fois que je viens, ouais. Ouais, ouais, c'est la première fois. Ah, c'est
je
beau!
Je vais monter la salle alors parce que t'as autant de personnes en bas qu'en haut. Même t'en as plus en haut qu'en bas.
Les pauvres là-haut, quoi.
Oui, c'est ça.
Les carrés là. Ah ouais, ouais, du coup, les gens sont vachement proches, c'est cool ça.
Ouais, il y a vraiment un rapport scène-salle qui est assez exceptionnel. C'est le gros plan du cinéma en fait.
Il y a combien de places là?
336.
Ah ouais, c'est bien, ouais.
Voilà.
C'est hyper proche, c'est cool.
Ouais, c'est génial parce que les gens sont là, donc t'as une familiarité avec eux comme ça. Ils sont ici, et puis là-haut, bah, tu vois bien de partout.
Ouais,
quoi.
Les gens voient bien de partout. En plus, ouais. Il n'y a pas des poteaux mal placés.
Non, pas du tout. Bon, il y a un petit banc en haut. Il y a une dizaine de places un peu moins.
Confortable.
Ouais, voilà.
Ouais, mais... non, c'est hyper beau. Hein. J'adore les miroirs sur le côté et tout.
Ouais,
là.
C'est beau. Hein.
Ah, c'est très beau.
Bon, bah, je suis content de te montrer la salle en tout cas.
Écoute, c'est bon, je suis satisfait.
Bah, assieds-toi, je t'en prie.
Ah, ouais.
C'est là qu'on a l'habitude de recevoir les choses.
Oui, c'est on se croirait un peu, tu sais, dans les interviews de Nikos Aliagas, tu sais.
Les talents sont là, Tristan Lepin, vous ne le connaissez pas il y a quelques années aujourd'hui.
Photo, noir et blanc et tout.
C'est une référence de l'humour. 50 minutes inside, Tristan Lepin.
Tu sais, tu fais bien en plus. Hein.
Ouais, t'as vu.
Alors, je suis face à François-Xavier de Maison, qui est donc propriétaire de ce magnifique théâtre, théâtre de l'œuvre, comédien, humoriste, acteur, directeur de théâtre. Il y a beaucoup, beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes dans la carrière de François-Xavier. Moi, surtout, j'ai beaucoup vu au cinéma.
Ah, vous m'avez manqué! Vous m'avez manqué comme des amis peuvent vous manquer. Et moi, quand je retrouve des amis, eh ben, je débouche une bonne bouteille.
François-Xavier de Maison.
Eh ben, moi, je suis ravi d'être en face de Tristan Lepin, qui me fait beaucoup rire. Et on a des amis en commun qui t'adorent. Donc, c'est toujours une bonne référence quand on a des amis en commun, parce que tu dis... Parce que les amis en plus qu'on a en commun, c'est des gens extraordinaires. Donc, je me dis que, tu es quelqu'un d'extraordinaire. et puis, je suis ravi de cet échange, ma foi. Dans ce beau théâtre que je dirige avec Kim Poignant et Benoît Lavigne, alors copropriétaire, hein, pas seul propriétaire.
Ouais, ouais.
Effectivement, voilà, je suis heureux de te montrer ce lieu, en tout cas, qui vibre tous les soirs en ce moment. Et voilà, c'est un bonheur de te le montrer. Je suis très fier.
Ouais, ouais, tu peux.
Bonsoir. Je suis hyper content d'être avec vous ce soir parce que depuis quelques temps, je me pose une question et je voudrais être sûr de ne pas être le seul dans cette situation. En fait, depuis que mon premier amour m'a quitté, enfin, a ruiné mon existence à tout jamais, je ne tombe que sur des connards. Toi aussi, ma chérie? Ouais. Non, mais c'est pas une question, ça se voit. Hein.
Tristan Lepin.
De jouer déjà dans ton théâtre et de manière générale sur scène, c'est une sensation qui te fait quoi?
Je pense que comme toi, c'est le saut dans le vide à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a ce trac terrible, est-ce qu'ils vont m'aimer, est-ce qu'ils vont être... Ah, et puis une fois que tu sens que ça prend, une espèce de déclic et on a envie de tout donner. Quoi. On est dans une espèce d'abandon complet, c'est vital pour moi, c'est vraiment la clé de voûte de tout un équilibre. Quand je passe trop de temps hors de la scène, je suis pas bien. Ouais. Je fais chier mon entourage, je me fais des montagnes de trucs qui n'ont aucune importance.
Ouais, parce que le rapport au public manque vachement. Enfin, moi, je m'en étais aperçu. Alors que avant de monter sur scène, moi, j'ai vraiment ce truc où j'ai l'impression que je sais même pas pourquoi est-ce que je fais ce métier-là.
Ouais, c'est
parce que j'ai toujours envie de crever. Je me dis, mais ça va être raté. De toute façon, ce que je dis, c'est nul. C'est pas drôle. Et les gens vont être hyper déçus de voir que, en fait, ça marche alors qu'il y a aucune raison que ça devrait marcher. Oui. Enfin, bref, il y a vraiment que des bonnes énergies dans ma tête, quoi.
Le fameux syndrome de l'imposture, quoi.
Ouais.
On est tous atteints de ce syndrome. Hein. Je pense que moi, quand je suis là, ici, juste avant d'entrer en scène tous les soirs, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je pourrais faire du cinéma, être tranquille, être dans ma maison de campagne. Et puis non, il faut que je retrouve le public, c'est vital.
Tu te confrontes au retour direct.
Ouais. C'est vital, il y a quelque chose de très existentiel. Ouais, dans... Le public m'apaise, c'est une quête qui est bizarre, puisque à chaque fois qu'on y va, on se dit, mais on est fou. Quoi.
Ouais, mais en même temps, c'est une constante remise en question qui est assez... qui est assez motive, qui est assez galvanisante, quoi. À chaque fois, du coup, on remet tout en question et quand on voit que ça arrive, on se dit, ah putain, en fait.
On s'en vivant,
en fait, c'est
quoi.
Bon. Ouais, ouais.
On prend des risques tous les soirs. Ouais. Dans ce monde où plus personne ne veut prendre de risques, où même les assureurs se font assurer, nous, on prend des risques tous les soirs. C'est vrai qu'on y va, quoi.
Moi, ouais, dans mon rapport au public, j'aime bien créer un peu d'interaction au début. Parce que moi, quand j'ai commencé à jouer, je jouais dans un tout petit théâtre à Pigalle. Et j'avais toujours peur
de pas voir les gens et du coup de me dire en fait là, ça se trouve les gens sont pas sympas du tout. Et du coup pour mon premier spectacle j'ai accueilli les gens avec des bonbons en mode pour voir leur tête et me dire ok comme ça je vois qui sont les gens sympas et comme ça je peux me raccrocher à eux pendant le spectacle si jamais je suis en panique parce que ça marche pas du tout quoi. Et moi j'ai vraiment ce rapport avec le public où je le fais moins parce que j'essaie d'avoir un truc un peu un spectacle différent où il y a moins d'interactions et qui est quand même plus dense et plus noir, mais je garde toujours ça au début juste, mais je pense que c'est un truc pour me rassurer et qui fonctionne bien chez les gens parce qu'ils aiment bien ça, mais toujours d'avoir une interaction pour dire ok en fait on est là un peu entre potes et que les gens pour m'assurer que les gens m'apprécient je pense aussi, et qu'ils rigolent.
Non, c'est bien, c'est une bonne technique hein. C'est une très bonne technique, effectivement, de, je dirais, de les apprivoiser un peu comme ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'essaye de pas avoir de regard sur les trois premiers rangs, parce que tu tombes toujours sur la tête qui te convient pas, quoi. Le mec qui fait la gueule, ou alors que c'est notre imaginaire, c'est notre parano complète. Parce que moi, quand j'écoute un spectacle, je suis pas comme ça. Tu vois, en train de sourire bêtement, j'écoute. Donc. Je vais tomber sur la tête d'un mec qui écoute, qui, si ça se trouve, adore, mais qui ne m'envoie pas une espèce de sourire du genre « vas-y, continue, c'est génial », et je vais me faire une parano.
Oui, et puis dès que tu attends d'avoir une réaction où normalement ça rit ou tu as un sourire ou machin, tu checkes la personne et si elle ne sourit pas, tu te dis « ah putain, vraiment,
c'est exactement. C'est exactement ça. Et là, je me dis « oh, il m'aime pas, il me déteste celui-là ». Et du coup,
il est venu au premier rang pour me le montrer.
Non, mais c'est ça, alors que c'est les places les plus chères en plus. Ouais, ouais. Donc c'est quelqu'un qui m'aime, qui vient au premier rang voir mon spectacle, c'est quelqu'un qui a une attente, qui est heureux d'être là. Mais on se fait des parano. C'est fou comme on peut être hyper fragile et hyper fort. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'éternité où on se dit je suis le roi du monde, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je suis en plénitude. Et d'autres moments où on retrouve le petit gamin de la cour de récré qui se faisait, en ce qui me concerne, parfois un peu vanner.
Ah ouais, bah ouais, bah moi aussi, t'inquiète pas.
Voilà, ça c'est un point commun peut-être. Ouais,
mais il y a beaucoup de gens, je crois, qui sont sur scène et qui se vengent un peu des gens qui...
De leur adolescence.
Ouais, je pense en ce...
Ouais, donc du coup, il y a une espèce comme ça de... Effectivement, de quête d'amour. Et donc du coup, j'essaye de ne pas regarder maintenant les premiers rangs et de considérer le public comme un monstre à 300 têtes ou un monstre à 2000 têtes, si c'est à l'Olympia, et une espèce de masse comme ça. Voilà, je les distingue pas trop. On devrait se dire s'ils aiment tant mieux, s'ils aiment pas tant pis, quoi, tu vois.
Bah oui, mais bon, à partir du moment où les gens ont payé, moi je me dis toujours.
Ils sont contents d'être là.
Ouais, ils sont contents d'être là, non, mais surtout je me dis toujours, ils ont encore plus le droit de, s'ils ont pas aimé, de détruire en fait. Tu vois, ils rentraient chez eux et dire je suis allé voir Tristan Lopin, mais en fait, quel enfer, j'ai payé 35 euros et en fait c'était vraiment nul. Du coup, moi j'ai toujours cette peur-là, quoi. Je crois que ça n'arrive pas. Mais,
bah non. Bah non, parce que sinon, au bout de quelques spectacles, t'aurais arrêté. Ouais, je pense que si ça décolle, c'est que le bouche à oreille est très positif.
A priori, c'est bon.
Et puis, il faut partir du principe que les gens qui payent pour venir te voir, il y a une démarche. Ils sont heureux d'être là. Moi, je me le dis aussi, tu vois. Et c'est vrai que quand la lumière se fait et qu'ils m'accueillent comme ça, bon, ça m'appelle, ça me met en confiance.
Ouais, bien sûr, ouais. Mais juste avant de me mettre un pied sur scène, moi, c'est toujours...
Et là, rien que d'en parler, on a le trac. Hein.
Un peu, ouais, ouais.
T'as vu, hein? Ouais, ça fait ça.
Moi, je crois vraiment l'entrée sur scène, justement, rapport au public, pour désamorcer cette espèce d'angoisse, j'essaie toujours de la prendre avec distance. Pour le premier spectacle, justement, je les accueille avec des bonbons, en mode dans la salle, donc il y avait ce côté « je suis pas vraiment sur scène ». Et le truc se fait, il y a une espèce de transition qui se fait. Et là, pour le deuxième, je fais une entrée sur de la musique classique. Avec ce truc des gens qui arrivent avec de la musique en mode genre coucou, comment ça va à Paris? J'ai toujours ce truc de putain, moi je trouve ça hyper angoissant. Déjà angoissant quand je suis dans le public, je me dis c'est hyper oppressant. Et du coup, je crée toujours un espèce de format qui me permet d'avoir de la distance et qui puisse se dire ah, il est là, mais qu'il n'y ait pas encore d'interaction ou de texte tout de suite et que moi je puisse dire ok, donc là on est en train de s'apprivoiser, il va y avoir 1 minute 30 et après.
Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de spectacles de stand-up qui démarrent, ou de spectacles d'humour qui démarrent avec un le mec arrive en courant, ouais. Et,
dans une énergie,
une énergie incroyable. Donc ensuite, ça peut que redescendre en fait,
bah ouais, c'est ça.
Parce que le mec est déjà au pic d'énergie. Donc moi, j'essaie là sur ce spectacle. Je suis éclairé en ombre et puis tout d'un coup, il y a la lumière et j'arrive tout doucement en marchant et je remercie les gens, mais je dis rien en fait. C'est le public qui parle, qui m'envoie son énergie. Ouais. Au lieu que ce soit moi qui vais me vider de mon énergie dès le début, je me remplis de leur énergie à eux, et là je démarre tout doucement.
Hey, c'est fort parce que moi c'est toujours un truc dont j'ai peur de me dire, tu vois, de rien faire du tout et d'arriver comme ça. Moi le silence c'est un truc qui m'angoisse déjà un peu, et du coup je me dis toujours, mais en arrivant comme ça et en disant aux gens, en fait j'arrive, mais en fait je trouve ça hyper classe hein, parce que du coup moi j'y arrive pas du tout, accorder ce silence, prendre l'énergie et après démarrer. Moi, je me dis toujours, il faut, tu sais, qu'il y a un son,
un rire. C'est ouais, le rire qui est attractif.
Ou en tout cas, un son, quelque chose qui détourne l'attention de juste ma présence, quoi.
Alors moi, j'étais comme toi et puis au bout de, finalement, bientôt 20 ans de ce métier, j'ai appris que le silence, c'était... pouvait nous servir aussi. Il ne fallait pas avoir peur du silence. Dans le spectacle, à un moment donné, je fais le silence, mais complet. Je dis, on va écouter le silence d'un théâtre parce que le silence, il décante les souvenirs. Et vous allez écouter tous les acteurs disparus, etc. Et pendant 10 secondes, il y a un silence et t'as personne qui moufte. Et en fait, c'est des respirations. Ça permet au public aussi de créer lui aussi, c'est-à-dire d'avoir un imaginaire,
ouais.
Comme quand il lit un livre, ou tu vois, où je crois qu'il ne faut pas avoir peur des silences parce que c'est vrai que la vanne, au bout d'un moment, je sais que toi, c'est pas uniquement comme ça, hein, mais... Je dirais que la vanne, au bout d'un moment, les gens, ils sont remplis, ils ont ri, mais quand ils ressortent, ils n'en gardent rien. Il y a des spectacles où j'ai beaucoup ri, pendant une heure, mais je n'en garde rien. Il y a des spectacles où j'écoute, je voyage, il y a une émotion, il y a un rire, il y a ça. Et là, je vais plus en garder quelque chose, tu vois, d'un propos. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur du silence, mais c'est facile à dire parce que quand on a peur du silence... Quand il y a un silence, on se dit, les gens ne rient pas. Donc, s'ils rient, c'est qu'ils m'aiment pas. Donc, ils passent pas une bonne soirée. On réenclenche le mode de la parano.
Et cette entrée en dansant. La danse, il y avait déjà dans le premier et dans le deuxième, parce que c'est vraiment des... Moi, c'est un truc que j'avais quand j'étais petit. J'ai fait pendant 10 ans de la danse parce que j'étais un garçon un peu très timide, un peu harcelé à l'école, etc., avec plein d'histoires un peu sombres dans mon adolescence. Et du coup, c'était vraiment un moyen de... C'était un exutoire, en fait, la danse. C'était le seul moyen que j'avais d'exister, un peu, quelque part, avant de me dire que je voulais faire du cinéma, que je fasse une école de ciné, que je réalise des courts-métrages, etc. Mais la danse, c'était vraiment un exutoire. Mais à chaque fois, je danse parce qu'il y a vraiment ce truc de lâcher prise qui, moi, m'a beaucoup aidé à me sortir de ce petit garçon qui ne croyait pas beaucoup en lui.
Mais tu vois, rien que ça, ça me donne envie de te voir sur scène. Je trouve que déjà, il y a un propos, tu vois, il y a déjà une originalité, effectivement. Le corps, ça, c'est... je dirais que moi aussi, je n'étais pas très à l'aise avec mon corps quand j'étais adolescent, parce que j'étais un peu rond.
Ouais.
Voilà. Après, j'ai beaucoup maigri, mais du coup, j'avais perdu toute ma personnalité. J'étais mince, mais il n'y avait plus rien, il ne restait plus rien. Donc, cette bonhomie, finalement, elle fait partie de moi. Ça ne m'a pas empêché de voir les plus belles femmes.
Ouais, c'est vrai. Je sais, on voit ça.
Non, mais si tu veux, cette bonhomie et cette autodérision, je trouve que c'est la moindre des politesses. C'est-à-dire que je trouve que quand on vend de l'humour, il faut en avoir un échantillon sur soi, quoi.
Ah bah, toujours, ouais.
Voilà, il faut avoir de l'autodérision. Et c'est vrai que je me cartonne pas mal dans le spectacle.
Mais c'est indispensable parce que les gens qui ne font que cartonner les autres, en fait, c'est juste méchant.
Enfin, mais oui. Moi, je ris avec les gens. Ouais. Je ris pas d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Je ris pas d'eux, je ris avec. Et c'est vrai que je me cartonne un peu sur mon physique, bon, qui est pas non plus. Tu vois, mais.
Ouais, bien.
Bah, merci, mais tu vois, je me qualifie plutôt de petit sanglier intrépide sur la scène. Et je crois qu'il y a cette. Oui, c'est quand à un moment donné, je danse sur Flashdance aussi, que je fais les pas de Jennifer Beals. Tu vois, les gens se disent, mais d'où il sort ça, de ce physique comme ça, de rugbyman catalan. Et du coup, tout d'un coup, ça devient, on voyage, il y a de la poésie, quoi. C'est les hippopotames dans Fantasia, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Dans la troupe de Philippe Découfflé, il y avait cet acteur qu'on adorait qui faisait Groland, tu sais, le président, ouais, qui était un danseur fabuleux. Donc je trouve que la danse, c'est. Moi, ça me bouleverse le corps, en fait. La danse, les imperfections du corps, ou qui tout d'un coup sont transcendées par la danse et on oublie tout, on a juste un être humain en face de nous et qui fait fi de toutes les différences. Moi, ça me bouleverse et ça m'intéresse, en tout cas, vachement, ouais. Artistiquement.
Oui, je pourrais t'embrasser.
Encore.
Ça va,
bien.
Ah,
ouais,
je suis content de
assister à cette lecture.
Ouais,
c'est à 14 ans la lecture.
Oui,
c'est ça. Vous vous relayez, ok. Génial.
C'est vrai, bah, moi aussi, beaucoup. Salut, Tristan.
Agathe.
Va enchanté.
Une lecture.
Oui, à 14h. Comment ça va? Les amis, ça va bien? Ça va bien? Bonjour. On fait une petite interview pour France Inter. Ah bon, bah très bien, bah écoute, vous allez à l'Ubu, je vous rejoins. Vous voulez la faire ici? Ben nous on descend, alors on vous laisse la salle. Très bien. Si, si. Vous voulez la faire ici, la lecture? Ouais, bah génial, bah nous on descend. Parfait, allez, on vous la laisse. Ça va, Bruno?
Drôle de rencontre avec Tristan Lopin et François-Xavier Demaison. Sur France Inter.
Voilà, je t'emmène au bar, Tristan. C'est un endroit stratégique du théâtre. Mais tu sais qu'un théâtre où il n'y a pas de bar, c'est...
C'est triste.
C'est triste, hein.
Ah, c'est chouette, en plus.
Ouais, puis on a des bons vins, on a des bonnes planches de charcuterie. Non, c'est un régal. C'est un régal de pouvoir goûter des petits vins nature après le spectacle.
La thématique du spectacle, non?
Oui, on va pas vraiment.
Enfin, en tout cas, dans le titre.
Je me raconte à travers 10 bouteilles de vin qui ont marqué ma vie. C'est-à-dire que c'est un fil rouge, en fait. Ouais. C'est un prétexte pour voyager dans le temps. Dans Retour vers le futur, t'as la DeLorean. Moi, c'est une bouteille de vin et ça me va bien, en plus, ouais, que j'adore ça. Mais tu vois, je me souviens de l'année, de ce qu'on y a vécu, des gens qui l'ont fait, des gens avec qui je les ai bu. Enfin, c'est une équation à plein d'entrées, en fait.
Ouais.
Je peux aller dans mon enfance, dans la Creuse, avec mon grand-père qui boit son 100%. Je peux aller aux États-Unis,
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Je peux aller avec une Américaine qui est là, oh my God, oh my God, oh my God, this is amazing, qui est sur un vin américain, californien, tu vois. Je peux aller en Italie, faire un voyage d'amoureux avec ma femme, et t'as cet Italien qui va draguer ma femme.
Vrai, ça raconte plein de trucs.
Ça raconte plein de trucs.
Ouais. Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vit. Parler du vent qu'on brasse et des vins qu'on boit. Avant ta mère c'était ma moitié, maintenant c'est mon tiers. Ici c'est l'Ovalie, la bienséance, la courtoisie. Enculé ! Carreau debout, accroché dans les camps. Et moi quand je retrouve des amis, eh ben je débouche une bonne bouteille.
C'est intéressant de voir que la mode a vraiment évolué dans le bon sens.
Bah quoi Jacqueline, je goûte. Je veux nettoyer la planète, ma fille. Il commence déjà par ranger sa chambre. France est le pays des lumières, mais visiblement, il y a quelques ampoules qu'on claquait.
Et en fait, s'il y a une passion qui est mise en avant dans mon spectacle, c'est la passion pour ce qu'on fait, pour notre métier, pour le lieu du théâtre. Parce que vraiment, moi, je trouve que un lieu, c'est l'incarnation de cette passion, moi, pour ce métier. C'est le lieu du théâtre, il est important, il a toujours compté. Ouais. Pour moi, j'ai toujours eu le trac quand j'allais avec les cheveux bleus voir des pièces de boulevard avec mes grands-parents, tu vois. J'avais le trac déjà, j'entendais la sonnerie, je me disais, il se passe quelque chose ici qui va compter pour moi, quoi, tu vois. Donc j'adore le lieu du théâtre, il me fascine ce rouge, comme ça, ça me fascine.
Oui, tu sens qu'il va se passer un truc, quoi.
Oui, ouais, et donc du coup, ben voilà, on a voulu, quand on a repris le lieu, faire de ce bar un lieu convivialité, donc le lieu de convivialité. Ça m'angoisse cette phrase, je suis désolé. Un lieu de convivialité, de partage, un lieu d'échange. Un lieu fédérateur, oui.
Mes parents, c'est des grands fans de vin, donc j'en bois beaucoup avec mes parents. Je crois que c'est quand je vais dîner chez mes parents, c'est l'endroit où je ressors avec la plus grosse gueule de bois.
Mais et ils habitent où tes parents?
Ils habitent à Paris.
À Paris, et ils aiment le vin?
Ouais. Ah oui,
ils font quoi tes parents?
Ma mère, elle est au magistrat.
Ah ouais.
Et mon père, il est kinésithérapeute.
D'accord.
Et ouais, ouais, moi, j'ai, à chaque fois qu'on va dîner chez
lui. Au magistrat, c'est-à-dire, elle est à la cour d'appel, cour
elle
de cassation
était, elle était à la cour de cassation.
Ah ouais. Ouais. Oula. Ouais. Ah ouais, putain, il y a du level.
On est sur du gros dos.
Il y a du level. Putain, ouais. À la cour de casse, il n'y en a pas beaucoup. Hein,
non, non, ouais.
Et t'es juge à la cour de casse?
Elle était conseillère, à première conseillère à la cour de cassation.
Ah ouais, 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 c'est du très lourd.
Conseillère à la cour de cassation, ouais.
Ouais. Oui, alors moi, mes parents sont tous les deux avocats. Et moi, j'ai fait Sciences Po à Paris.
Ah ouais.
Donc, je fréquentais aussi des gens qui devenaient énarques ensuite, puisque l'ENA existait encore. Et donc, du coup, c'était vraiment ouais, le service public, tout ça. On apprenait les arrêts de la cour de casse.
Ouais, c'est ça.
On était, voilà, c'était passionnant. Hein. Il y avait des gens absolument passionnants.
Tristan Lopin.
Je prends toujours en considération le regard des autres. Déjà, c'est un truc que je dis au début du spectacle. Je dis, ma plus grande peur, c'est le regard des autres. Donc, ma famille, mes proches, évidemment. Et le spectacle, celui-là, irréprochable encore plus, parce que c'était un spectacle dans lequel... Enfin, le fond du spectacle, c'est je parle d'une agression sexuelle que j'ai eue quand j'avais 13 ans. Et j'ai écrit ce truc-là, vraiment en me disant, je sais absolument pas si je peux faire ça, si je peux rire de ça, parce que vraiment, le spectacle aborde des sujets qui sont très, très denses, quoi. Et je me souviens très bien, la première date à Paris, à la Cigale, le 20 novembre 2021, il y avait mes parents, et du coup, je me suis dit, non, mais je vais balancer ce truc-là, je les avais prévenus de la thématique, quoi. Mais je me suis dit, mais je vais balancer ça devant 900 personnes. Ça va faire, déjà, ça va faire l'effet un peu d'une bombe. Et puis, eux vont se reprendre dans la gueule. Je me suis vraiment dit, mais est-ce que du coup, je ne vais pas leur renvoyer une espèce de culpabilité? Est-ce qu'on ne va pas les pointer du doigt pour de mauvaises raisons et tout? Et en fait, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Mais moi, je pars du principe que de toute façon, dans les choses que je fais sur scène particulièrement, parce que les vidéos, c'était vraiment pour créer du contenu et sur de l'actualité ou des choses un peu anecdotiques. Moi, sur scène, c'est toujours quelque chose de très cathartique. Et donc, forcément, si j'écris quelque chose, c'est parce que j'ai des trucs... c'était des trucs que j'avais à régler avec moi-même, avec les gens qui m'entourent, la société. Et donc, forcément, le regard des autres, pour moi et de mes proches, fait partie intégrante de l'écriture, en fait.
Moi, je pourrais dire la même chose avec mon parcours à moi. Effectivement, il n'y a pas eu la violence de ce que tu as vécu, mais c'est vrai que on a on va pas se plaindre, hein, mais on a vécu une violence dans l'enfance qui a pris la forme. Et les proches ont compris la licence poétique déjà, la distance que tu mets entre ce que tu fais sur scène et la vie. Par exemple, mon père, moi, je le fais sur scène. Effectivement, il a un gros ventre. Alors, je dis, avant ta mère, c'était ma moitié, maintenant c'est mon tiers. Tu vois. Mais bon, ça le fait rire. Bon, ils ont compris qu'il y a une distance quand même artistique entre la vie et la scène. Mais on se sert forcément de ce qu'on est, de nos proches. Ça m'est arrivé de balancer une vanne issue de ma vie privée et qui a été très mal prise par la personne concernée. Et qui m'a fait la gueule pendant 6 mois. Comment t'as pu dire ça? C'est honteux, etc. T'as envie de dire, mais je parle pas de toi, je parle de... Ouais. C'est un prétexte. C'est le début d'un fil que j'ai tiré pour en faire un clown. Je pense qu'à un moment donné, nous, on se sert de... On prend des photos aussi, des gens qui nous entourent. On en fait des personnages. Mais il y a un acteur du français qui me disait, tu sais, d'un autre côté, sois peinard, parce que tu vas convoquer, tu vas jouer l'avare devant les 500 mecs les plus avares du monde. Ils vont rire, parce que ce ne sera pas eux. Ils vont toujours croire que c'est le voisin, quoi. Donc, il y a un déni des gens. Et tant mieux, on est là pour prendre du recul aussi. C'est tout ce qui nous reste, hein, quand même, de prendre un pas de recul et puis de pouvoir rire de ce monde anxiogène, de ses excès, de ses hystéries. Et on veut nous l'enlever en plus, parce qu'en ce moment, les mecs qui sont le plus visés par les polémiques ou par les petites phrases, c'est les humoristes. Donc tu as envie de dire, laissez-nous quand même ça. Ouais. Sinon, on n'a plus que les chaînes d'infos en boucle qui, quand même, nous balancent un peu d'angoisse. Hein. Donc on veut même nous retirer cette dérision que le fou du roi, on veut lui faire son procès aussi. Merde, quand même. Hein?
Ouais, on peut plus désamorcer ouais. À moins de second degré. Les gens sont très premier degré. Ouais.
Ouais.
T'as vu le reportage Terrorisme, raison d'état sur Arte? Ah, c'était hyper intéressant. En fait, il t'explique comment on en est arrivé à une espèce de guerre permanente contre le terrorisme. Pourquoi il n'y a aucune raison, en fait, que tu arrêtes de te poser la question de savoir s'il va pas se passer une merde dès que tu t'apprêtes à participer à un rassemblement quel qu'il soit. Ça fait envie, hein. Moi, perso.
J'adore.
Vivre dans la crainte, comme ça. Je suis pas très branché routine, donc là, je suis au top.
Drôle de rencontre avec Tristan Lopin et François-Xavier Demaison sur France Inter.
Moi, les thématiques dans le spectacle, quand je décide d'écrire sur un sujet, c'est toujours parce que déjà, j'ai le sentiment d'avoir quelque chose à dire et que je me sens légitime dans ce que je dis. C'est-à-dire que y a plein de sujets que je trouve très très intéressants, mais auxquels je m'intéresse pas assez pour avoir un sujet, pour avoir un avis, du recul et du coup du contenu pour faire rire les gens avec. Enfin, moi, si je débarque avec un sujet que je maîtrise pas et que je commence à juste parce que j'ai googlé deux minutes avec trois phrases, enfin, non, ou alors je fais mal mon taf. Donc je me dis, je le fais quand je sais que j'ai des trucs à dire. Tout est une question de point de vue et quand on aborde un sujet, une thématique, c'est toujours à travers son prisme.
Ouais, il y a une question de sincérité, de vérité. Ouais. Plus on est proche de l'os, plus on intéresse. Toi, dans ton monde, moi, dans mon monde. Moi, je vais rire avec Tristan Lopin parce qu'il va me parler de lui, même si on est très différents. Il va peut-être rire avec moi parce que je vais lui parler de moi, même si mon univers est sans doute très éloigné. Donc, il y a quelque chose de... Plus, c'est le... Je vais citer Tony Stark, quand même, l'impresario de Mireille Mathieu, qui lui dit « Chante ton village, tu feras chanter le monde. » C'est le contre-champ, le personnage. C'est-à-dire que j'ai toujours, bon, bah voilà, je sais pas, je peux te citer mon prof de Sciences Po, le Hongrois, qui me dit « Oui, nous en sommes tous les deux fâchés avec le régime. » Bon, il parle du régime politique, moi, il se fout de ma gueule, parce que je... Mais tu vois, c'est mon contre-champ, c'est moi qui suis là dans la scène. À partir du moment où je projette un personnage comme ça, si bien fait soit-il, si virtuose soit-il, je dirais qu'il y a un moment donné, c'est moins intéressant. C'est mon point de vue, c'est moi qui fais de la boxe, et mon prof de boxe qui me dit, voilà, on t'a soufflé dedans ou quoi, il faut que je te reprenne en main, tu vois. C'est parce que moi, je suis en contact avec ce personnage qui prend du point de vue ce personnage. Et qui l'illustre. En fait, moi, je ne fais que... c'est chiant, ça, cette soufflerie. Hein.
Il y a des mains qui
sèchent. Oui.
Ah, c'est vrai ?
Les gens ne se sont jamais autant lavé les mains que pendant notre interview. Et tu peux, regarde, si tu baisses le petit truc, là. Tac, voilà. Merci. Hein.
C'est bon signe, en même temps, que les gens se lavent les mains.
C'est très bon signe, ouais. C'est des bons réflexes.
Les gens sont propres.
Et l'autre aussi. Mais là, il y a une concentration de gens qui se lavent les mains. Je suis avec Isabelle Huppert l'autre jour. On est en train de faire une scène très, très dure dans un film d'auteur en ce moment que je suis en train de faire avec Isabelle Huppert. Et tout d'un coup, je suis là et le réalisateur lui dit, Isabelle, il faudrait que tu le dises tout bas, tout bas. Tu le dis à François-Xavier, tu lui dis que tu fais cette confidence tout bas. Comme ça, comme ça. Et là, t'as une perceuse de... Jamais on a eu cette perceuse, mais à cet instant précis. Donc voilà. Bon, là, c'est la petite parenthèse. C'est du spectacle vivant, donc il se passe toujours quelque chose, c'est vivant. Un malaise vagal, un mec qui se lève pour pisser au moment de mon final, t'as envie de lui dire, il reste une minute, vieux. Je te jure. Et qui revient. C'est-à-dire que j'ai un final super, tu vois, qui monte. Et le mec, il part au début du final, il revient à la phrase avant le final pour aller pisser. T'as envie de lui dire, je te jure, là, tu peux tenir. Allez. Mais non, c'est du spectacle vivant. Et puis, ils ont pris le pli, les gens, d'être à la télé. Hein. Ils sont devant leur télé, ils commentent beaucoup.
Ouais, c'est vrai que les gens commentent beaucoup.
Moi, j'ai un copain qui m'a dit, moi, un jour, je veux dire, un copain acteur, qui a fait une grande carrière, qui me dit un jour, il y avait un mec au deuxième rang. J'arrêtais pas de parler. À un moment donné, j'ai arrêté le spectacle. Je lui ai dit, toi, tu vas bien fermer ta gueule. Bon, bah, eh ben, il me dit, je lui dis, ça s'est terminé comment la représentation? Il me dit, pas très bien. Je lui dis, les gens n'ont plus ri du tout. Il me dit, oui.
Ouais, parce qu'il faut toujours rester bienveillant. Quoi.
Et en fait, c'est aussi l'accident que c'est ce qu'on recherche. Parce que l'accident, il va faire que tu vas jouer, tu vas passer en mode survie, tu vas aller chercher des trucs super intéressants. Ouais. Donc, on dit souvent l'art vide contrainte et meurt de liberté. C'est vrai qu'au bout d'un moment, un spectacle d'humour qui ronronne, parce qu'on sait où sont nos effets, ouais. Parce que, bon, et tout d'un coup, un petit truc, une petite piqûre, une nana qui, au deuxième rang, tu vois, comme hier soir, me fait une réflexion, et ben je rebondis dessus, et tout, et ben, tu vois, comme j'ai bien rebondi dans le bon esprit, ça a créé d'entrée de jeu une relation avec le public, et la représentation, elle a été super. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois que spectacle vivant, il faut pas, faut considérer qu'il peut arriver des accidents et que c'est bien.
Drôle de rencontre avec François-Xavier Demaison.
Quête de la présentation parfaite, elle est, c'est comme de toucher un arc-en-ciel. Hein, on n'y arrivera pas. Hein. Il y a des soirs où tu as l'impression que tu touches à la présentation parfaite et tu loupes la phrase de ton final.
Ouais. C'est un peu... Alors, moi, je trouve qu'il y en a quand même parfois...
Qui sont au-dessus du lot, ouais.
Ouais, où c'est vraiment une espèce de communion entre nous et le public, où on sent qu'il y a vraiment une espèce d'échange très, très fluide. Et où même, moi, récemment, je l'ai vu à l'Européen, où vraiment, je me suis dit, mais là, genre, c'était hyper fluide et j'étais hyper dans la sincérité. En tout cas, pour moi, j'ai pris vraiment de plaisir parce que j'étais vraiment dedans. J'ai eu l'impression que les gens étaient hyper réceptifs, etc. Et là, tu sors et tu te dis, c'est trop bien. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme un rapport sexuel, quoi. Il y a vraiment ce truc de souvent, on a envie que ça soit tout le temps parfait, qu'on soit tout le temps au max, etc. Il y a des moments où vraiment c'est un peu loupé. Mais en fait, c'est loupé pour que certainement, genre, peut-être deux ou trois fois plus tard, eh ben, tu te dis, ah ouais, c'était loupé pour qu'en fait, là, je prenne tellement de plaisir, quoi.
Ouais, ouais.
Il y avait beaucoup de partenaires d'un coup, mais c'est...
Non, mais c'est très juste. C'est... Après, il y a, je crois que chaque jour est différent. Il y a des soirs où ils rient, et je me dis, ah, putain, c'est génial. Et deux secondes après, ils sont partis. Parce que c'est un samedi soir, ou qu'ils sont au resto déjà, en train de m'oublier. Non, parce qu'il faut relativiser aussi. Hein. Voilà, après, ils vont bouffer. Hein. Et il y a des soirs où je me dis, ah tiens, c'était plus dur. Hein? Et ils sont en standing ovation et ils veulent plus partir. Et ils me disent des choses merveilleuses. Et... Donc en fait, chaque soir est différent. Et c'est ça qui est bien. Parce que sinon, on aurait toujours de la nostalgie de, ah t'aurais vu mardi dernier, oui. Comme c'était bien.
Et là, tu finis par dire au public à chaque fois, bah franchement, ils étaient mieux la semaine dernière. Quel enfer!
Ils étaient mieux il y a 10 ans.
François-Xavier.
Oui, Tristan.
Moi, j'ai une question pour toi.
Oui.
Tu te sens comment quand tu sors de scène? Parce que j'ai appris comment tu te sentais en entrant sur scène, mais en sortant de scène.
Ça t'intrigue?
Ça m'intrigue énormément. Et j'aimerais te raconter surtout comment je me sens. Je te pose la question.
Eh bien, je vais surtout te dire comment je te sens sur scène, en sortant de scène, parce que moi, je t'ai vu en sortant de scène. Je descendais d'un spectacle au Petit Palais des Glaces.
Toi, ah tu oui, jouais au Grand Palais des Glaces. Ouais,
et je l'ai vu et je me suis dit, lui, c'est un vrai. Parce qu'il était, irradié de bonheur, quoi. Il avait cette plénitude du saltimbanque qui a bien fait son travail. Il avait cette plénitude de l'amour du public. Il en était rempli. Et je me suis dit, lui, c'est un vrai. Parce que, voilà, je me suis reconnu dans ce bonheur qu'il avait de sortir ce set, cette espèce de beauté. Je lui ai dit, t'es beau. Non, mais c'est vrai.
Et on me le dit pas souvent.
Non, mais quand tu sors de scène, t'es très beau. Mmh. Voilà. Et donc, je peux dire que, voilà. Et je pense qu'il y a cet état de plénitude, de fatigue, mais de fatigue heureuse. Comme après avoir fait l'amour, mais de manière folle, avec quelqu'un dont on est très amoureux et avec qui ça se passe bien au cœur.
Voilà. On est porté, quoi.
Porté.
Et puis, une demi-heure après, en général, un peu épuisé, quoi.
Un peu épuisé, on a le coup de barre. Et puis après, faut aussi relativiser les réactions des gens qui ont les mots qu'ils peuvent. C'était sympa. Quand tu te dis, ça fait 2 ans que je bosse en écriture dessus.
Le bad.
Le c'était. Attends, tu l'as eu le c'était sympa.
C'était sympa ou c'était cool.
Ouais. C'était cool, hein, vous êtes sérieux? Genre, j'ai donné une heure et demie, j'ai écrit des trucs, genre, où j'ai puisé de ouf. Et là, tu me dis, c'est cool. Non, c'est pas cool, en fait. Genre, je préfère limite que t'aies pas aimé. Au moins, je me dis, il y a un truc qui t'a choqué, qui t'a vraiment trop chamboulé et tout. Mais là, juste, c'était cool. Ah, putain, merde. On va attendre devant la télé.
Oui, on a passé un bon moment. Ah, c'est tout. Merde. Mais parce que les gens ont les mots qu'ils
ont. Oui, bien sûr.
Et puis voilà, je respecte. Très bien. Mais c'est vrai qu'on a envie, quand on monte sur scène, qu'il y ait des gens dans la salle qui ressortent en ayant leur vie changée. C'est notre ambition, en tout cas.
Ouais. Oui, de pas juste faire rire. Mais moi, j'écris pour que les gens, quand ils sortent, se disent « Ah, j'ai trouvé ça drôle, mais ça m'a chargé d'autres choses, quoi. » Ouais, alors oui, j'aime les garçons. Ça se voit pas tout de suite comme ça. Je vous rassure. C'était pas une vanne, mais OK, comme là. J'aime les garçons, je vous rassure, pas les petits garçons. Hein. Je suis baptisé, mais je pratique pas du tout. Non, j'aime les garçons de mon âge, un peu plus jeunes, un peu plus vieux. Enfin, je suis assez open. Trop, peut-être. Mes potes m'appellent la voiture balai, donc...
Je crois que la meilleure façon, ce serait presque de... Moi, j'aime bien venir traîner un peu ici, mais la meilleure façon, je crois que ce serait peut-être de disparaître et de le garder pour soi.
Moi, dans ma vie, le rire, c'est ce qui m'a permis de me sortir de... Enfin, voilà, moi, à l'adolescence, après tout ce qui s'était passé, j'ai eu un espèce de surplus d'émotions et c'est ce qui m'a permis de créer du lien avec les autres. Donc, pour moi, je pense que ça dépend vraiment des gens, quoi. Moi, c'est un truc qui m'a permis de me révéler, en fait, aux autres et à moi-même. Comme aurait pu le faire la danse, j'imagine, mais j'avais besoin, je crois, de créer un lien avec les autres et c'est comme ça que je l'ai créé, donc...
Pareil, c'est vraiment... je bois tes paroles, Tristan.
Oh là là.
Écoute, c'est pareil, c'est effectivement une manière de revisiter sa vie comica, quoi, de... C'est tellement une politesse, je trouve, de... Et voilà, moi, j'aime les gens qui savent rire dans les moments difficiles et je pense que nous, on offre ça, en servant de nous, en montrant que peut-être on en a chié à une époque, mais qu'on l'a dépassé par le rire. Ça peut peut-être envoyer des bonnes vibrations aux gens qui vont se dire, bah, d'abord on passe un bon moment et puis tout ça est très positif et voilà. Mais bon, toute proportion gardée, on n'est pas des donneurs de leçons, on n'est pas des coachs, on n'est pas des gourous. Pas des philosophes et on n'est pas des hommes politiques. Voilà. Une fois que tout ça.
Tant mieux.
Mais une fois que tout ça est dit, c'est bien. Mais que les gens n'essayent pas non plus d'aller chercher tout ça non plus. Voilà. Tu es d'accord avec ça?
Je bois également tes paroles, c'est terrible.
Bah, tu vas boire mon vin aussi, tu vois.
Moi, en tout cas, dans mon enfance, je me souviens très bien que mes parents me faisaient beaucoup regarder Les Inconnus, Les Nuls. Il y avait Valérie Le Mercier, Muriel Robin, Élie Kakou. Beaucoup, ma mère adorait Élie Kakou. Et c'est des gens qui, je pense, ouais, de... déjà, c'est des gens qui créaient des personnages. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, des personnages, plus que juste du stand-up tout le temps. Et aujourd'hui, en dehors de François-Xavier, évidemment, dans les gens... en fait, je vais te dire, surtout pour ce spectacle-là, pour le deuxième, où je me suis autorisé quand même beaucoup plus de choses, à rire de choses dont je ne pensais pas pouvoir rire un jour, c'est vraiment Blanche Gardin qui rit de choses dont je ne sais pas si elles sont réelles ou pas, mais à un moment donné, je me suis dit, en fait, intelligemment, on peut rire... de trucs vraiment hardcore si le propos est sincère et si c'est bien fait. Je me compare pas à elle du tout, mais en tout cas c'était la démarche dans laquelle j'étais pour écrire ce spectacle là et quand j'ai vu les retours, enfin quand je vois là aujourd'hui les retours et tout, je me dis bon bah c'est, on fait pas la même chose du tout parce qu'on a pas du tout la même énergie ni rien, mais en tout cas j'ai puisé ce truc de on peut rire de tout si c'est bien fait.
C'est pas plus mal d'avoir un gros cul quand on est dépressif, je vais vous dire, parce que ça donne un but dans l'existence, en fait. Maigrir, on sait pourquoi on se lève le matin, c'est ça. Et quand on a un but dans la vie, On se suicide moins. Moi, je me suicide beaucoup moins qu'avant.
Moi, mes modèles, ça a été Coluche, que j'ai eu la chance en plus de, d'incarner au cinéma. Et puis, j'étais très fan de Guy Bedos, que j'ai eu la chance de, d'approcher, qui a été extrêmement bienveillant à mes débuts, et avec qui j'avais noué une relation d'amitié. J'étais même allé le voir en Corse, j'ai eu dans sa maison. J'ai passé des séjours là-bas, et c'était quelqu'un qui, je trouve, voilà, avait cette intelligence fulgurante, cette voilà, et on s'aimait beaucoup. Enfin, moi, je suis très fier d'avoir été son ami.
Et bien, c'est l'autre jour, dans la rue, j'ai rencontré une femme très gentille qui me fout un papier sous le nez et qui me dit « Est-ce que je peux avoir une petite griffe ?» Pour ceux qui ne savent pas, une petite griffe, c'est un autographe. « Est-ce que je peux avoir une petite griffe ?» Oui. C'est pour qui ? C'est pour ma fille. Elle a quel âge ? 10 ans. 10 ans, elle est petite, elle doit même pas savoir qui je suis. Et quand elle saura, peut-être que je serai mort. Et cette conne qui me répond, c'est pas grave, on a les cassettes.
Mal, après, moi, je suis très client de toute la nouvelle génération qui est venue ici. Guillermo, Marina, Roman. Dans leur style, je les trouve super. Donc, moi, je suis très grand public, en fait. À partir du moment où la personne est sincère, je sais ce que je vais voir, quoi. Je peux rire devant une pièce de boulevard, je peux aller voir la Cerisée comme il y a 15 jours à Odéon avec Isabelle Huppert. Et je peux prendre du plaisir dans toutes les situations et avec toutes les personnes qui si elles font bien leur métier, sont toutes inspirantes, en fait. J'ai adoré cette rencontre. C'était très généreux de la part de Tristan, toutes ces confidences qu'il m'a faites. Et je trouve que c'est... voilà, j'ai vraiment... ce moment, pour moi, il était sincère, généreux, comme quand on débouche une bonne bouteille de vin avec quelqu'un qu'on ne connaît pas encore très bien, mais dont on sait qu'il peut devenir un ami, dans le sens où on est en phase complète avec lui, sur plein de choses. Et donc voilà, je le vois comme ça à ce moment.
Oh là là, j'ai presque envie de pleurer. Bon bah c'est chouette. Moi je n'ai pas de vin à donner, mais moi j'ai
une bière.
Oui. Non, une bière, non, du champagne plutôt. Là,
voilà, ça pétille.
Salut Tristan.
Salut, merci beaucoup.
À bientôt.
C'était vraiment un chouette moment avec François-Xavier. Parce qu'on se connaissait, on s'était déjà croisés, mais c'est toujours des conversations qui sont chouettes de ressenti sur le métier qu'on fait. Et puis c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Et en plus, ça tombe super bien parce que là, on a fait tout ce trajet et on arrive devant l'Olympia où je vais jouer en janvier 2023. Et moi, je devais déjà faire l'Olympia pour le précédent spectacle et on ne l'a pas fait à cause du Covid. Donc grosse frustration, là on fait 2 dates alors que le spectacle ça a même pas 1 an et là voir mes lettres là sur la devanture en rouge là, mes parents ils sont déjà trop excités quoi. J'attends de voir toute ma famille qui va débarquer, je crois qu'ils ont tous pris leur place, donc ouais non c'est hyper galvanisant ouais. C'est une belle année.
Drôle de rencontre, un podcast signé Eva Rock. Prise de son Thomas Langlin, mixage Julien Michel, réalisation Fabrice Lègle. Drôle de rencontre, un podcast de France Inter avec Netflix.